Vous écoutez Radio Libertaire 89.4 MHz. Le Monde Merveilleux du Travail ce soir vous présente une émission qui a été diffusée il y a déjà 2 ans maintenant et était concernée. Et le... Pardon. Elle était consacrée aux 40 ans du lycée autogéré de Paris. Nous avons pensé qu'il était bon de relancer cette émission que vous ne pouvez plus trouver sur les podcasts de Radio Libertaire. Voilà. Cependant, il ne tenait pas compte donc des rendez-vous, des annonces militantes qui y sont faites. La seule que je peux vous donner tout de suite, c'est la montée au mur des fédérés le samedi 25 mai 2024, donc à l'appel des amis de la commune de Paris 1871 et des organisations partenaires, à 11h, Paris Place des Fêtes, pour avec un rassemblement festif, des concerts, animations, et à 14h30 un départ du cortège de Place des Fêtes pour une arrivée au cimetière du Père Lachaise. Donc ce soir, une émission consacrée au LAP, et bonne écoute, et on se retrouve là, dans 15 jours pour une émission qui sera peut-être, elle, en direct, consacrée au LAP et à l'actualité du LAP.
Radio Libertaire 89.4,
la radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre. Et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.
Où est-ce qu'il est encore passé, ce maudit chat ?
Le Monde Merveilleux du Travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz.
Bienvenue dans l'émission du Syndicat du Commerce et de la Restauration de la Confédération Nationale du Travail, animée en direct sans retenue ni complaisance, chaque premier, troisième et cinquième lundi du mois, par ses militants sur leurs 8 heures de loisirs quotidiens, pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire sur les ondes de Radio Libertaire.
Édito du lundi 30 mai 2022 du Monde Merveilleux d'après, retour sur l'expérience du lycée autogéré de Paris, le LAP, 40 ans déjà, ou encore, selon les points de vue, en tout cas ça se fête, mais que peuvent bien nous réserver les lapiens aux cheveux verts, des agapes épicuriennes et des bacchanales infernales. Avec ces gens-là, vous savez, nous diraient les bons bourgeois qui voudraient bien que cette expérience organisationnelle disparaisse pour qu'il ne reste plus, enfin, qu'un type d'éducation républicaine. Eh bien non, notre émission donne la parole à ceux qui font vivre le lycée autogéré, Pascal et Natacha, nos invités. Comment l'autogestion peut-elle développer de l'ordre délibérément sans l'autorité? Vous le saurez en écoutant le Monde Merveilleux du Travail avec un cocktail à la main et des petites fleurs dans les oreilles.
Vous écoutez Radio Libertaire, 89.4 MHz, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité. Mais tout de suite, la chronique du jour, qui est celle des mémoires d'un nanar. Fabrice aura la parole dans quelques instants.
Oui, alors je voulais quand même rappeler aux auditeurs et à vous, nos invités, que ce que je raconte, c'est vrai. Hein. C'est ce que je relate, hein, c'est du vécu, c'est pas de l'inventé. Voilà. Et ben, on lance tout de suite le générique.
C'est une histoire assez furieuse.
Qu'est-ce que tu dis?
Toi, si jamais tu me redis qu'est-ce que tu dis, je vais finir par te le dire, tu vas voir.
Qu'est-ce que tu es con, patron?
Oui, cette chronique ce soir va traiter des bobos. Les bobos, donc. On emploie tellement ce qualificatif à toutes les sauces, comme on dit chez nous au syndicat de l'hôtellerie, pour qualifier les Parisiens qu'on ne sait même plus ce que ça veut dire. Diminutif de bourgeois bohème, les bobos. Le bobo n'est pas tout à fait le bourgeois traditionnel ni le bohémien buveur d'eau que nous décrivait Murger ou encore moins le poète Crève-la-Faim de Vallès. En fait, il y aurait plusieurs bobos. On est tous le bobo de quelqu'un, comme il y en a pour les cons. Sans être le bourgeois ultralibéral, le bobo a quand même le sens de l'épargne. Son fric, il le distribue avec parcimonie. Il est destiné aux épiceries fines, tendance écolo, aux boutiques équitables, aux coopératives alimentaires et solidaires. Autant des shops auxquels n'ont pas toujours accès les pauvres, que l'on n'appelle pas bohémiens, mais pauvres. Pour le coup, ils boivent de l'eau, du robinet, eux. Pas celle de la bouteille en verre, consignée qui coûte une blinde. Ouais, mais c'est pas du plastique qui tue les baleines. D'accord. Au XXIe siècle, les Zeus, qui vivent comme des bohémiens du XIXe siècle, c'est les Roms. On n'en parle plus trop des Roms aujourd'hui, ni en bien ni en mal, c'est plus à la mode. Et les bobos, ils aiment la mode, pas vestimentaire, vous en seriez aperçus. Avec leurs bonnets péruviens et leurs pulls en laine recyclés tricotés au Pakistan, on peut pas dire qu'ils ont la touche. Les bobos, maintenant, c'est des écolos. Ils veulent sauver la planète sans toucher à la propriété privée ni au capitalisme qui les a fait bobos. Bon courage! Ça ne nous dit pas comment on reconnaît un bobo. Ils ne se reconnaissent déjà pas entre eux. C'est pas moi qui vais te donner la solution. Puis c'est pas mon rôle de dénoncer. Tu m'as pris pour un bobo? Oh la vache, j'ai fait la boulette. Non, ils ne dénoncent pas le bobo. Ils citoyennent. Une crotte de chien sur le trottoir, clique, une photo qu'on envoie à la mairie. Une trottinette sur la chaussée, hop, une photo qu'on envoie sur les réseaux sociaux. Il y a trop d'incivilité dans Paris, qu'ils tweetent. C'est quasi la jungle. Le bobo, il ne sait pas qu'il l'est, bobo. Il se croit citoyen, parce qu'on lui a dit, comme ça. Il ne dénonce pas les jeunes à la police, comme au jour heureux du vichisme on dénonçait son paria, non. Il informe avec la déontologie du journaliste qu'il n'est pas, les impondérables de la vie collective. Il ne voit pas la misère sociale, le bobo, il voit le trafic de crack à sa porte. Il ne voit pas le paumé, clochardisé et détruit par la dope, non. Il voit le junkie qu'il menace chaque jour au feu rouge, quand il passe en vélo. Il est respectueux de l'institution républicaine. Il embrasse le policier, félicite les deals municipales qui ont délocalisé la déchéance sociale vers un autre jardin des halles. Ou, on s'en fout, du moment que je retrouve mon parc municipal propre. Alors, comment définir un bobo? Pas vestimentairement, j'ai déjà dit. même s'ils portent des fringues en lin tissé à la main en Asie par les enfants de 5 ans. Ça donne un aperçu de la panoplie. Oui, mais là, c'est pas très moral. Ah non. L'étiquette, elle prouve qu'il y a une charte du fabricant qui garantit une exploitation équitable de la main-d'œuvre. Bien joué. Mais le bobo, il est hype aussi. Quand il est jeune, c'est déjà plus le même. Il soigne son apparence, les cheveux, la barbe. Le jean slim trop court, il est beau. Mais les modes changent, vite. Le lin, le barbershop, le jean ample, et quoi d'autre? Ça va trop vite, j'arrive plus à suivre. Aussi vite qu'une trottinette électrique. Il fait tout électrique, le bobo. Il roule en scooter électrique, en vélo électrique, en voiture électrique. Ouais, il est écolo, je vous dis. Ah bon? C'est écolo, l'électricité nucléaire, l'extraction du cuivre des mines des pays émergents, le recyclage des batteries usagées. Tu vas me dire qu'il faut plus de papier? Exactement, le papier, c'est un arbre qu'on a tué. On va quand même pas se torcher au taser? Non, ça on garde. Mais le reste, hop, tout numérique. Oui, mais les data centers qui stockent les données, c'est pas polluant. Faut vivre avec son temps. Faut être moderne. La modernité, c'est le prétexte des médiocres pour accepter docilement les pires injustices sociales et l'exclusion des inadaptés à la dématérialisation numérique de toute chose, à l'exploitation invisible d'une main-d'œuvre bon marché, à la destruction du lien social par les rencontres distancielles. Faut quand même pas exagérer. Il y a la fête des voisins. La fête des voisins, c'est un peu comme les applaudissements aux fenêtres au temps de confinement. Tu le fais au moins une fois par peur de passer pour un salaud aux yeux des autres locataires. Donc, une fois par an, rendez-vous dans le hall de l'immeuble. La musique est assurée par l'orchestre improvisé des musiciens volontaires du quartier, inopinément baptisés les cracheurs de fausses notes. Le bar est constitué de créations liquoreuses artisanales, mais aussi des bouteilles qu'on a du mal à refourguer autrement, des chips maison et indigestes, et des punchs impropres à la consommation. Mais c'est fait avec bon cœur. Au début, ça part l'association de locataires. Au bout d'une heure, et que la glotte est imbibée de tous les mélanges alcooliques présents sur la table, les soixantenaires ES, tout juste divorcés, évoquent les jeunes hommes solides. C'est l'effet Brigitte Macron. Mais, et ton fils? Il est où ton fils d'abord? Ah, il est là-bas. Elles lui font des grands signes du bras, qui au passage a perdu tout sens exact des circonvolutions. Viens, Rodolphe, viens nous parler de tes études. C'est sociologue qu'il veut faire, pas sexologue. Un jour, elles ont même essayé de le coincer, de l'immobiliser avec l'alcool. Ça a fini en vomissure à triple boyau. Et s'il n'y avait pas eu ça, ça aurait fini en tournante, dans le parking de l'immeuble. Parce que c'est là qu'on a fait le pot de départ de la gardienne, en plein confinement. Les invités étaient triés sur le volet. Le bobo a le cœur à gauche et le porte-monnaie à droite. Tu peux aborder tous les sujets de société. La politique aussi, mais il ne faut pas aller trop loin. Bruno, je l'appelle Bruno, je ne sais pas si c'est son prénom, je l'avais rencontré dans la loge de la gardienne. On y avait discuté. On est venu à parler Radio Libertaire. Il connaissait, mais pas pour les mêmes raisons que moi, Bruno. Il était plutôt souverainiste. Il était dans les sous-sols et il se souvenait de moi. Il me rejoint alors que je faisais connaissance avec un bobo des îles Caraïbes. Dès qu'il a entendu le mot « libertaire », prononcé par bobo, mon caribéen s'est discrètement éclipsé vers ses semblables. Le bobo est de gauche, mais pas anard, quand même. Après ça, j'ai eu du mal à me débarrasser de Bruno. Personne n'en voulait non plus du Bruno. Sinon, c'est pas raciste, le bobo. Ça aime tout le monde. Quand je suis arrivé dans le quartier, je portais un trench coat, j'étais un berbe, je chaussais des souliers en cuir bien ciré, je portais cravate et chemise, j'étais bien accueilli. Depuis, j'ai pris 20 kilos, du poil sur le visage et des cheveux longs. Je vois moins de monde. La pandémie a eu ça de bon. Les bobos me reconnaissent à nouveau. Ils ont tellement été isolés ces deux dernières années que ça fait rien. Ils me parlent. Il faut que j'y parle à quelqu'un. Je croise Laurent et j'ai une baguette sous le bras. Tu achètes ton pain chez le Petit Noir? Chez Sassou, tu veux dire, oui? Bah, tu l'appelles comme ça, toi? Bah, je l'appelle par son nom, Sassou. Mais ça, c'est ce qui est écrit sur sa caisse enregistreuse. Hein, c'est pas la marque de la caisse enregistreuse, c'est son nom, Sassou Nyakate. Bon, bah j'y vais. Hein. Voilà, ils sont pas racistes les bobos, un brin dédaigneux, surtout avec les noirs. J'y vais écouter, voilà, je sais plus où j'en suis, je me perds dans mes fiches. C'est sûr que les pas bobos font moins de chichi. n'y a pas que la gardienne qui a quitté l'immeuble. Il y a Madame Rodriguez aussi. C'était ma voisine de palier. Elle a été remplacée. La gardienne a gardé des liens avec tous ses meilleurs anciens locataires, triés sur le volet, dont Madame Rodriguez et moi. Alors, ils sont comment, les nouveaux voisins? Je fais de ne pas comprendre. Bah, ils sont jeunes. Mais d'où ils viennent? Ah, j'ai pas demandé, ils n'ont pas l'accent du midi, ça doit être région parisienne. Oui, mais ils ont beaucoup d'enfants, ils font du bruit. Ah, j'ai entendu des coups de perceuse, mais ça venait pas de chez eux, m'ont-ils assuré. Mais ils sont quoi? Je sentais qu'elle se passait la main sur le visage, comme pour dire barbouillé. Vous voulez savoir s'ils sont africains? Non, ils ne sont pas noirs de peau. Paris a longtemps été reconnu pour ses titis, il est maintenant déconsidéré pour ses bobos. Le titi parisien, j'en ai bien connu un, hein, Serge. Il avait l'accent et le chapeau ou la casquette sur le crâne. Il avait la classe ouvrière. Le coco. Les bobos, ils sont snobs. Ils représentent la classe ouvrière huppée. Ils lisent à gauche. Les premiers bobos, je les ai rencontrés chez Colette dans sa librairie 1789 rue Castex dans le 4e arrondissement de Paris. Un brin mélodramatique. Ah, Colette! Comme je suis contente de te revoir, je suis allé vivre dans le 10e arrondissement. J'avais un grand appartement, mais j'ai pas pu tenir plus de 2 mois. Je ne peux pas vivre sans avoir vue sur la Seine. J'ai réintégré mon studio sur les quais. Voilà. La librairie a été remplacée par un bistrot branché, mais les bobos se sont multipliés. Ils ont même investi la chapelle après avoir gentrifié Belleville. Alors oubliez ma question liminaire, comment on reconnaît un bobo. Bientôt, il n'y aura plus que ça dans Paris. Vous y vivez, vous en serez. Enfin, vous y vivrez, vous en serez.
Je berçais mes passions dans les bras de Morphée. Tes cours me transperçaient d'une flèche indiscrète. Ta baguette n'avait rien du conte de fées. Je voyais les étoiles quand tu frappais la tête. C'est de notre duo mon plus vieux souvenir. Sur le même navire à chaque bout du pont. Moi fait pour l'illusion, toi fait pour la punir. Maître, je n'avais pas encore compris ton nom. J'ai failli t'oublier à force d'habitude. Le pinceau se répète, écho de mes erreurs. La punition alors résonne en lassitude. L'oubli est un trésor, richesse du rêveur. Tu n'avais pas vieilli au printemps des poètes. Moi j'étais à l'époque, à l'âge du muguet. Je n'ai depuis vécu une plus belle fête. Toi on t'appelait chef, moi on me poursuivait. Effacer les orions, guérir les échymoses. Je relevais la tête, croyant avoir perdu. Mais le destin promet de plus bizarres choses. Tu m'as prise à ramper à coups de pied au cul. Tu supposais enfin qu'en tuant l'idéal jaillirait l'homme neuf pour un ordre nouveau. Mais j'ai fêté la fin à coups de fleurs du mal. Et en sortant de là, je récitais Rimbaud. Nanti d'un droit de vote et d'un devoir travail. On me fit plus souvent travailler que voter. Tu étais le gratin, moi j'étais le bétail. J'ai quitté le troupeau, tu es resté berger. Même si avec toi je n'en ai pas fini, la malchance fera encore nous rencontrer. Je te reparlerai pour tant de poésie. N'espère surtout pas m'avoir de ton côté. Même si avec toi je n'en ai pas fini, la malchance fera encore nous rencontrer. Je te reparlerai pour tant de poésie. N'espère surtout pas m'avoir de ton côté.
« Vous venez d'entendre les chanteurs-livreurs et peut-être que Natacha va nous en dire un mot ou deux.
Bah oui, j'avais choisi cette musique. Bon, alors j'ai pas fait dans la grande originalité puisque ça passe en soi assez couramment sur la bande continue de Radio Libertaire. Mais du coup, j'avais choisi cette musique puisque bah justement en rapport avec le thème de l'éducation et puis par suite des écoles alternatives. Bah, elle m'évoquait pas mal donc la violence de l'éducation et puis par cette simple phrase assez enfin qui me semble assez courante de on n'est pas là pour faire des poètes et mais pour apprendre la plomberie poétique par cœur et tout ça pour des examens alors voilà c'est ça que ça m'évoquait. Donc, judicieux de la passer, je ne sais pas.
En tout cas, judicieux certainement dans le sens où ça va lancer l'émission.
Hein, voilà. Et en plus, c'est du soutien des camarades. Voilà. Mais il ne sait pas, Eric, mais. Enfin, bref.
Oui, parce que lance l'émission. Oui, allez, l'émission est lancée.
Je crois que Pascal voulait justement pas rebondir, mais saisir l'opportunité d'avoir entendu la chronique pour. Pour attaquer la bourgeoisie.
Alors, juste après. Allez, voilà. Soyons
formels. Bravo.
Tout de suite. Comme on y va. Où est-ce que j'ai mis mon flingue? Non, peut-être une petite remarque, puisque on n'est pas là pour faire des poètes. Et puis, une première chose sur la chronique, avant de revenir sur les propos juste avant la chronique. Puisque tu parlais de l'attitude du bobo qui ne déclare pas son hostilité ou son mépris envers les Noirs, mais exprime très, très très clairement sa condescendance. Et donc ça c'est quelque chose d'assez classique où il y a deux façons de mépriser quelqu'un, bah, c'est soit de le faire ouvertement, soit de le faire de manière comme ça, un petit peu détachée. Et c'est quelque chose qui aussi se retrouve très 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 fortement à l'école. C'est-à-dire qu'il va y avoir deux façons de mépriser les élèves. La première, bah, ça va être de dire bah, « tu vas être complètement nul, tu seras toujours un nul, qu'est-ce que je peux faire de toi ?» Et la deuxième, bah, « non, mais c'est très bien pour toi, CAP plomberie, avec toute la condescendance que peut y avoir dans la façon de le dire pour un enseignant. Voilà, » c'est deux façons de vivre les choses qu'on retrouve à la fois dans la société et chez les enseignants. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que Fabrice, tu disais en début d'émission que, enfin, les bourgeois rêvaient d'en finir avec le lycée autogéré de Paris pour ne vivre qu'une seule, pour que ne laisser la place qu'à une seule école républicaine. Je m'interroge si c'est effectivement le projet de la bourgeoisie. En tout cas, si on en juge par ses représentants du côté de l'Élysée. On s'aperçoit que bah, ça fait un bout de temps que la bourgeoisie n'a pas besoin d'une école unique pour former de la chair à canon, ce qui était le cas il y a une centaine d'années. On va peut-être revenir sur les combats à l'école il y a quelques années plus tard dans l'émission. Mais le rêve de la bourgeoisie actuelle, c'est absolument pas cette école républicaine unique. Je dirais même que, à contrario, c'est plutôt des militants syndicaux qui la défendent actuellement. Avec un certain nombre de critiques, évidemment, mais le fait que l'école soit quelque chose qui est accessible de manière égalitaire à tout le monde, c'est absolument plus défendu par la bourgeoisie. Et peut-être même, il y a un certain nombre de pièges dans les projets de l'école de Macron qui défend une école où en apparence, tout deviendrait libre, la possibilité d'avoir des projets pédagogiques locaux serait tout à fait possible. Alors évidemment, sous l'autorité d'un proviseur ou d'un chef local, hein, il n'est pas question de faire ça en horizontal. Mais en tout cas, la liberté pédagogique et une école qui serait soi-disant adaptée aux réalités de terrain, parce que c'est un peu ça le verbiage qu'il nous fait, c'est tout à fait dans le projet du nouveau quinquennat. On va voir ce qu'en dit le nouveau ministre de l'Éducation s'il reste en place un peu plus de quelques semaines. Mais en tout cas, dans le projet d'une école très différente d'une école à l'autre et même d'une école mise en concurrence, ça, il n'y a pas tellement de mystère là-dessus.
Moi, je partage assez ce qui vient d'être dit, mais je pense même que ça fait 30 ans, plus de 30 ans qu'il y a une déconstruction de l'école. Du modèle républicain, en tout cas, tel qu'on l'a fantasmé, tel qu'il a existé un petit peu, c'est vrai, une époque entre 1800, 1875-80 et voilà 100 ans, allez, 1980. Au-delà, on est déjà plus dans un projet d'école universelle. On est dans les réformes qui se sont enchaînées, notamment aussi bien par sous Mitterrand que par la suite. Hein. Quand on dit on veut 80% d'une classe d'âge qui veut atteindre le bac, ça n'a aucun sens. Enfin, derrière, il n'y a pas de moyens. Si l'objectif c'est simplement du chiffre, ça a commencé comme ça. Et les gouvernements ensuite de droite ont détricoté avec toutes les lois, notamment de l'enseignement supérieur, qui ont fait rétrécir, qui ont amoindri les cursus au nom, vous savez, pour faire sous prétexte d'harmoniser avec les cursus anglo-saxons, on a réduit la voilure de ce qui se faisait en France. C'est une originalité, je pense notamment à la recherche, je pense aux études des niches qui n'existent plus parce qu'on ne veut plus payer d'enseignants sur des spécialités, ou alors c'est réservé à des élites qui reproduisent un modèle élitaire. Voilà. Donc je crois que j'adhère complètement à ce que tu viens de dire et je pense que ça fait 30-40 ans que ça se déconstruit petit à petit, que le libéralisme déconstruit et qu'effectivement, aujourd'hui, on constate, c'est un constat flagrant, les bourgeois, comme la République libérale, qui n'a rien à voir avec la République, ou du moins celle de la fin du 19e, n'a plus besoin de l'école telle qu'elle existe aujourd'hui. Voilà. Elle a besoin de plombiers, elle a besoin de... Plombier. Enfin, c'est pas l'école, c'est la société qui a besoin de plombiers, mais on pourra en discuter d'ailleurs de cette histoire de plombiers. Des bons, il y en a de moins en moins, mais pour être plombier, faut avoir une tête bien faite.
Je dirais qu'elle a toujours besoin de l'école pour sélectionner.
Oui.
Forcément pour former, c'est parce ça, que c'est la sélection.
Et surtout le modèle où on laisse les entreprises donner le là. On a besoin de 10 000 chaudronniers, 50 000 électriciens, 100 000 sages-femmes, je dis des bêtises, les chiffres, mais 3 000 médecins, généralistes, etc. Donc c'est une espèce de liste à la Prévert où l'école doit répondre et s'adapter, moduler ses formations, mettre des numéros clausus qui n'en ont pas le nom. Voilà, tout simplement pour répondre aux besoins du capital et de la production. Donc on se fout pas mal des poètes, oui, je suis d'accord. Et de la poésie. Bon, je ne veux pas vous saper le moral, mais... j'ai une vision assez... je pense que le LAP, c'est de la résistance à ce projet, c'est une forme de résistance. Deux, c'est pas simplement je résiste pour ne pas disparaître, c'est je résiste pour proposer autre chose. C'est important. C'est important. Il existe 4 établissements du même acabit en France métropolitaine.
Pas tout à fait du même acabit, mais 4 établissements qui ouvrent dans les mêmes conditions.
Voilà. C'est peu. Il ne faut pas laisser disparaître, au contraire, promouvoir. D'où l'émission aussi un petit peu de ce soir.
C'est vrai que c'est des conditions assez exceptionnelles qui ont permis l'ouverture des 4. Et ça ne s'est jamais revu depuis, malgré des tentatives, malgré des personnes qui se sont mobilisées, malgré des collectifs qui se sont créés. Il y a eu longtemps, durant les années 90, des personnes qui se retrouvaient pour porter collectivement l'idée qu'il y ait un lycée expérimental par académie. Puisqu'il y a 22 académies en France, il devait y en avoir au moins... pour que, pas trop trop loin géographiquement, tout le monde puisse accéder à un lycée expérimental. Ça n'a jamais, jamais, jamais abouti, parce qu'il y a eu... Autant il y a eu cette petite ouverture de 1981-82, après, ça a été pas question...
Elle s'est refermée rapidement. Voilà. Et donc de l'intérieur, alors, des poètes au LAP ? Oui ou non ? De la poésie ?
Bah, alors, je pense que déjà pour créer de ce genre de.
Parce qu'on a besoin
d'établissement qui a eu besoin d'avoir un peu autre chose dans la tête qu'une boîte à distribuer des diplômes et à faire une. Et à formater au travail, quoi. Est-ce que pour autant ça forme des poètes? Je pense que c'est plus. Ça y laisse plus la liberté, quoi. J'avais une réflexion la dernière fois sur cette affaire de liberté de fréquentation. Je peux rappeler un petit peu ce que c'est. On a un principe au LAP, donc qui est la liberté de fréquentation, qui fait qu'on n'a aucun cours auquel on a l'obligation d'y assister, plus qu'aucun atelier, etc. Souvent les élèves qui sont au LAP vont mettre c'est un espèce de constat, alors dis-moi si je me trompe, mais c'est un peu ma vision des choses, vont quand ils arrivent au LAP soit par confusion de ce que peut être la liberté de fréquentation, c'est-à-dire entre une obligation morale d'assister aux cours pour lesquels on a de l'intérêt, ou alors pas du tout d'obligation d'assister à aucun cours. Certains vont durant la première année, la deuxième année, passer un peu très 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 peu de temps en cours, quoi, et en fait, après réflexion, je me dis, ceux qui arrivent ici au LAP ont généralement toujours été dans les écoles traditionnelles, dans lesquelles le rythme est assez effréné. Et il n'y a aucun moment où on a le droit à la réflexion, ou à être un peu seul, la solitude, pour moi, je pense qu'on s'accordera là-dessus, que c'est un moment essentiel pour développer de la réflexion, de l'esprit critique, de la pensée personnelle, etc. Et pouvoir réfléchir à la concordance de ses idées, de ses actes, etc. Alors justement, ce moment de généralement d'un an de rupture quasiment complète avec les cours, ça relève pas justement de la nécessité de après des tant d'années dans le traditionnel de vouloir enfin pouvoir réfléchir, quoi.
C'est quelque chose d'essentiel, et c'est quelque chose qui n'a pas sa place dans l'école traditionnelle, et même, je dirais, dans la plupart des secteurs de la société. C'est-à-dire que dans l'école traditionnelle et dans plein de domaines, rien ne peut être entrepris s'il n'y a pas un objectif précis, une codification, voire un protocole et des choses. L'objectif doit être annoncé. Même c'est de plus en plus présent dans le travail social, tout un certain nombre. En tout cas, à l'école, aussi dès la maternelle, tout doit être entrepris avec objectif. C'est-à-dire que une fois que cet objectif est posé, et exoposé, c'est-à-dire que c'est pas posé par l'élève ou par la personne, c'est par l'enseignant pour le bien de l'élève, entre guillemets. Eh bien, une fois que ça s'est posé, les choses s'opèrent sous la contrainte du temps, sous la contrainte de l'espace, voilà. Et donc, il n'y a absolument pas la place à cette réflexion, à se poser, à divaguer un peu, à prendre son temps, à chercher, à se trouver, à pas se trouver. Voilà, et c'est ça qui est essentiel, et c'est peut-être ça qui est la condition nécessaire pour former des poètes, des musiciens, mais des personnes qui se cherchent et qui à un moment, peuvent être là, et font des choses sans savoir pourquoi elles le font dans un premier temps, mais c'est plus tard que le sens profond de tout ce qui aura été entrepris dans cette période-là apparaîtra. Et souvent, il y a des témoignages assez forts d'élèves qui reviennent 10, 15 ans après, ou au minimum 5 ans, parce que ça prend du temps, en disant « mais en fait, c'est fondamental ce que j'ai vécu et ce que ça m'a permis de réaliser pour ce que je suis devenu. » Toute cette période où on se cherche, où on a des relations sociales, on ne sait pas exactement ce qu'on fait, mais finalement, on pose des fondations assez importantes.
Et puis, c'est vrai qu'il y a un côté, dans l'école classique, il y a un côté productiviste, hein, puisque le temps est compté, la gestion de l'espace. C'est un élément de gestion, l'école, aujourd'hui. Hein. C'est un élément de gestion avec des paramètres sur les horaires, sur le remplissage des salles, sur l'occupation des enseignants, parce qu'il ne faut pas les laisser rien faire, pas sur la maximisation des activités. Avec l'occupation des locaux, etc., etc. Tout ça, c'est un modèle de gestion. Et on est passé d'un modèle éducatif à un modèle gestionnaire. Et éducatif, c'est déjà pas brillant, mais le modèle gestionnaire, aujourd'hui, voilà. On ferme des classes parce que certaines options ne sont plus les bienvenues dans la mesure où ça ne regroupe pas suffisamment d'élèves pour mobiliser un enseignant qui va coûter tant. Ou alors il faut le partager avec deux, trois établissements différents pour avoir un titulaire académique qui puisse tourner lorsque c'est une formation, je pense, au grec ancien ou des choses comme ça, qui ont quasiment disparu du paysage, y compris. Alors les universitaires, j'en entends parfois couiner à la radio ou sur d'autres ondes moins libertaires, s'est penché dans les colonnes des journaux en disant on ne forme plus d'hellénistes, on ne forme plus. Mais bon, ça fait 40 ans que ça disparaît petit à petit. Et le constat aujourd'hui, il se réveille, mais c'est trop tard. Il y a énormément d'enseignements comme ça qui ont d'espaces de liberté, parce que quand vous êtes sur de l'optionnel ou sur du en plus du programme, vous avez un espace de liberté. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu en fréquentant l'école classique. C'est comme ça que je l'ai vécu. C'est-à-dire que il n'y avait pas de notion de résultat, il n'y avait pas de notion de performance, il n'y avait pas de notion de on te juge sur ce que tu vas produire. C'était alors c'était pas le LAP, mais c'était des temps on se retrouvait dans ces options, des options de dessin, des options grecques anciennes. On se retrouvait parce qu'on avait un autre rythme qui était un petit espace de liberté.
La logique gestionnaire dont tu parles est là, en fait, elle est pour moi la conséquence de la capacité à tout mesurer et la capacité à tout mettre dans des tableaux informatiques. Nous, on le subit au LAP comme la plupart des autres, mais là, on était relativement épargnés dans un certain temps. Il y a le fameux, enfin, je sais pas si les auditeurs et les auditrices connaissent, le fameux indicateur qui s'appelle le H sur E, et qui est en fait H pour nombre d'heures et E pour élève. En fait, il compte un enseignant, il compte en fonction de son statut, s'il a 15 heures, s'il a 18 heures, voilà. Et donc, ils additionnent dans un établissement tout le nombre d'heures comme ça, en fonction de tous les statuts des enseignants, et ils divisent par le nombre d'élèves. Et le but de... Ils ont un grand, grand tableau avec tous les établissements et toutes les filières peuvent être comme ça analysées. Enfin, ils n'ont même rien à faire, hein, puisque tout est fait pour eux, ils nous l'ont expliqué. Et dès que ce H sur E, le but pour eux, c'est qu'il soit le plus bas possible. Voilà, qu'il soit à 1-1, 1-2, c'est-à-dire une heure par élève. Et dès que ça passe au-dessus d'un certain seuil, alors je ne sais pas quel est ce seuil magique qui fait qu'il y a une alerte, eh ben, la ligne passe en rouge. Ils le voient tout de suite, quoi. Donc... ça, c'est un des trucs complètement implacables qui fait que les espaces de liberté qui pouvaient exister il y a quelque temps, dans une société où tout est sous contrôle d'écran comme ça, une capacité à mesurer, à rentabiliser ou pas rentabiliser, mais en tout cas mesurer le coût quasiment de manière instantanée, ça donne quelque chose d'assez totalitaire d'un point de vue gestionnaire, quoi.
Je suis d'accord. En fait, ce qui se passe, c'est que le rythme de l'école, et en fait, puisqu'on parle de temps, cette notion de temps, de temps vraiment très précis, etc., c'est grandement utilisé et raccordé à justement l'industrie et le travail, quoi. Et on voit justement dans l'organisation de l'école, dans justement le rapport au temps qu'on a à l'école, qui est exactement calqué sur celui du travail. Quand je vois par exemple de la primaire jusqu'à après les études, je trouve qu'on arrive un peu au paroxysme avec les prépas. Qu'est-ce qui se passe? Bah, quand les parents vont au travail, généralement, l'école ouvre au moment où justement les parents vont au travail pour pouvoir... ce qui va avoir pour conséquence plutôt que les horaires vont être calqués exactement de la même manière. L'enfant va travailler parce que ça va être un travail intellectuel avec aussi des heures, des cadences, des espèces de rendements qui vont être demandés par le biais des résultats, des notes, des examens. Et vont ressortir aux mêmes heures que celles de leurs parents, quoi. Vont aussi avoir l'heure de récréation, si on peut appeler ça comme ça, parce que je crois que c'est très reposant d'être enfermé à une centaine de gamins dans une cour en béton, mais bon, voilà. Les heures de repas où justement là aussi pour moi ça s'inscrit aussi dans cette conception de l'homme machine où justement on va vraiment faire mettre de côté ce moment du repas en disant que en faisant passer ça plutôt comme un espèce de carburant qu'on va se foutre dans le corps pour réussir à continuer à travailler par la suite que comme un moment justement de plaisir, d'élaboration des sens, du goût et de l'odorat, etc. et du fait de savourer. Non, on va considérer ça comme du carburant et les élèves comme une espèce de machine à injecter des cours et à gagner des examens, quoi.
C'est le parallèle que tu fais avec
de la valeur travail.
C'est le parallèle que tu fais en par rapport à ce que vous vivez vous au lab, c'est-à-dire que vous avez transformé l'espace cantine traditionnel du lycée avec la coupure médiane en un temps partagé et collaboratif et d'expérience aussi autour de comment on mange, ce qu'on travaille ensemble, ce qu'on cuisine ensemble, ce qu'on découvre ensemble, ce qu'on choisit ensemble éventuellement. Non, sur un modèle d'industriel, c'est pas possible. Il faut dire qu'il y a des lycées, combien êtes-vous au LAP?
240 élèves et 25 enseignants.
C'est à échelle humaine. Vous avez des lycées où il y a 1500, 1800, 1800, 2000 élèves.
C'est analysé dès le départ et c'est une volonté de départ de rester petit. Hein, sinon, si on veut que ça soit convivial et que tout le monde puisse se connaître et avoir une dimension humaine, forcément.
Mais ce qui revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on choisit des concentrations. Il y a 22 régions. La carte des lycées comme la carte des collèges, c'est un outil de pression sur les élèves, sur les enseignants, sur les familles aussi. Hein. Peut-être moins et encore différemment en Île-de-France ou dans les grandes conurbations comme Lyon, Bordeaux, Lille. Mais dès qu'on quitte un petit peu et qu'on va vers les villes moyennes et petites, pour aller au lycée, c'est une aventure. Hein. Donc, tu disais, c'est le temps des parents, c'est le temps de l'école pour les enfants, le temps du travail pour les parents. Il y a une concordance, hein. T'imagines, dans la Sarthe ou en Meurthe-et-Moselle, quand il faut faire 45 minutes de voiture pour emmener les enfants au lycée, quand il y a... ça veut dire que les parents... ils n'ont peut-être pas le loisir de le faire. Quand il y a des transports, c'est autre chose. Mais ça rend les journées très très longues. Et pour les parents, mais aussi pour les lycéens, les collégiens. Donc on est vraiment... En fait, on duplique effectivement les injustices sociales et les inégalités territoriales. Pour le coup, l'école devient inégalitaire.
Alors, on va passer faire une petite pause musicale très courte. Ça va être mon choix. Ce sera pas celui de Natacha. Et puis après, Natacha va peut-être embrayer sur un petit petit exposé de... Oui, je sais pas, oui, bref. Ouais. On va vous mettre de la musique et puis on va régler ça entre nous. Hop, 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 et en plus je mets n'importe quoi. Enfin, c'est pas n'importe quoi, mais c'était pas ce que je voulais mettre.
Où vas-tu, petit garçon? Je vais à l'école. Quand reviendras-tu? Jamais. On me gavera, on m'endormira, on me hachera, on me mangera. Je vais à l'école. Quand reviendras-tu? Jamais. Qui te mangera? Un bourgeois bien gras, un marchand de soie, un plein de caca. Tra-la-la-la-la. Où vas-tu, petit garçon? Je vais à l'école. Quand reviendras-tu? Jamais. Mon père, es-tu là? Je prends mon cabas. Mon maître, es-tu là? Je prends mon compas. Allons dans le bois. Tra-la-la-la-la. Où vas-tu, petit garçon? À la boucherie. Quand reviendras-tu? Jamais. Jamais.
Eh bien, nous retrouvons nos invités sur Radio Libertaire 89. Bon, je ne sais pas combien.
4.
Je ne permets pas, moi. Point 4, Monde Merveilleux du Travail. Natacha, c'est à toi.
Oui, enfin, bah, je trouve. Eh,
la rime poétique est riche.
Pardon ?
Natacha, c'est à toi.
Moi, poésie, on vous a dit.
Oui, alors, je trouvais intéressant de revenir à. Enfin, de faire une sorte de lien entre d'autres pratiques libertaires qui ont eu lieu et de mettre le LAP dans une espèce de continuité historique par rapport à des expériences, à des pédagogues libertaires aussi qui justement étaient partie prenante d'expérience aussi. Alors c'est par là ce que je veux tout de suite préciser, c'est que je suis pas convaincue que le LAP s'inspire directement de toutes les expériences qui ont eu lieu dans le mouvement libertaire. Je suis pas convaincue que dans les fondateurs du LAP tous aient grandement étudié la question ou tous avaient le souvenir de ces expériences pédagogiques là en voulant créer le LAP. Mais n'empêche qu'elles sont là, que les idées, même je sais pas si j'aurais du mal à dire inconsciemment, mais émergent et viennent de quelque part, quoi. Ce que j'avais eu envie de raccorder, c'était par exemple sur la notion d'arrêter de faire une distinction entre la théorie et la pratique. Alors en fait, depuis entre la théorie et la pratique, depuis à peu près le commencement du mouvement libertaire, quoi. comment dire, émerge un peu cette espèce de, enfin non, dans les pensées pédagogiques, et émerge tout de suite cette idée de dire que généralement on a tendance à faire cette distinction. Pourquoi elle reviendrait faire cette distinction qui reviendrait à une distinction de classe quelque part. La distinction justement entre la pratique qui serait plutôt du, comment dire, qui relèverait plutôt du salissant, du peu propre, etc., du travail qu'exercerait la classe populaire, et de tout ce qui est intellect, qui serait plutôt, ça relèverait plutôt du domaine de la bourgeoisie. Je vois une espèce d'évolution qui va se former, parce que je dirais que Proudhon commence à évoquer ça en parlant de l'école-atelier. Mais il y a une évolution qui va se faire jusque dans les années 20, 30, 40 sur cette notion-là. Quand Proudhon parle de l'école-atelier, il va avoir cette notion justement à l'inverse, très un peu ouvriériste, de se dire il va falloir que les élèves apprennent, face à l'école, en plus des cours de français, de mathématiques, de physique, etc., passent une grande partie de leur temps à l'atelier. Mais justement, ce qu'il attendait par à l'atelier, c'était bien pour apprendre un travail manuel, pour, alors par là, je vois l'idée de vouloir... mettre un peu plus d'importance, accorder plus d'importance au travail manuel, mais aussi cette notion de se dire que qui va apporter le travail plutôt en estime, le travail en lui-même de la manufacture, quoi. L'évolution qui va se produire, c'est que chez les pédagogues qui vont venir après, comme mon premier Bakounine par exemple, pour citer des grands noms, on va passer d'école à l'atelier plutôt à éducation intégrale. Alors ça, je pense que c'est moi qui fais cette liaison, mais c'est pas dans les faits, quoi. On va passer de l'école atelier, du coup, de vouloir apprendre un travail, apprendre le travail d'usine, à une notion plutôt d'éducation intégrale, en se disant non, le travail manuel est une forme de savoir et n'est pas simplement une nécessité d'avoir une nécessité comme les la manufacture, quoi. Je vais faire un grand raccourci parce que je vais passer la commune sur un sujet que je connais un peu moins, à l'apparition des bourses du travail. Où justement entre temps la notion c'est complètement développée, et je pense qu'on n'en est plus du tout à cette notion de devoir apprendre, de porter en exergue le devoir d'apprentissage du travail d'usine, mais justement à se dire que l'apprentissage manuel fait partie d'un apprentissage général, simplement pour le besoin et l'envie d'apprendre, sans spécialement qu'il y ait la volonté de quelque chose d'utilitaire derrière. Ça va se retrouver chez bon nombre de pédagogues libertaires. Pour continuer dans la lancée, je trouve que y a donc un rapport qui se forme entre justement cette notion d'éducation intégrale qui arrive et celle qui va être de la volonté d'autres pédagogues libertaires comme que ce soit à La Ruche, que ce soit chez Francisco Ferrer en Escuela Moderna en Espagne et chez d'autres personnes comme Paul Robin qui vont monter des orphelinats, etc., d'avoir l'envie de sortir, quoi. De sortir hors des murs de l'école, toujours d'une part dans cette volonté de faire du concret dans l'éducation et aussi comment dire par le constat que laisser des gamins ou des êtres humains n'importe qui que ce soit sur une chaise tout au long d'une journée est rarement quelque chose de très plaisant et au final de très très enrichissant voilà et donc ça c'est un des points qui se retrouve qui va se retrouver au LAP à travers les ateliers qu'on va faire où chacun va pouvoir proposer des ateliers divers et variés sur quelques sujets que ce soit et aussi le nombre que je trouverais quand même assez considérable de sorties disons pendant les cours ou de projets qui débouchent à des voyages ou les plus divers et variés voilà au LAP.
Ce qui me paraît important dans ce que tu dis, c'est de à la fois connecter tout l'apport de la fin du 19e siècle sur les réflexions pédagogiques, hein, que ce soit Robin, un peu plus tard Fort, mais toutes les réflexions effectivement autour de la connexion, autour de l'intellect et du manuel, que ce soit aussi, puisque c'est la même époque, la réflexion autour de l'émancipation et du rejet du pouvoir de l'Église et de comment émanciper la connaissance du pouvoir catholique, que ce soit aussi sur la façon de transmettre et tout l'essor des écoles mutualistes et donc de réfléchir à que quand on l'apprend pas uniquement de la part de l'enseignant qui serait censé être le seul détenteur du savoir, mais aussi en pratiquant et avec d'autres. Et tout ça, c'est des choses qui ont été réfléchies, sur lesquelles il y a eu pas mal d'apports à la fin du 19e siècle, et qui évidemment se retrouvent dans toutes les expériences, ou dans la grande majorité des expériences sympathiques et émancipatrices, que ça soit chez Freinet, que ça soit à Summerhill, que ça soit dans... Enfin, il y a plein d'expériences depuis, dans toutes les expériences éducatives qu'il y a eu dans la deuxième partie du 20e siècle. Et évidemment au lycée autogéré de Paris. Alors pour la question de est-ce que les fondateurs du LAP revendiquent directement des penseurs de l'éducation libertaire, malheureusement le principal initiateur est décédé il y a longtemps, Jean Lévy, en 84, donc on ne peut pas tellement connaître son rapport. Il y a un certain nombre de témoignages qu'il a laissés et décrits, hein, mais... c'est pas tellement les premières choses qu'il met en avant. Quant aux autres qui ont été regroupés par Jean Lévy, il y avait des parcours suffisamment variés pour qu'on puisse pas avoir cette filiation directe, ni même explicite avec les penseurs libertaires. Mais c'est ce que tu disais et ce que je partage aussi, que, en fait, dans l'éducation et dans l'éducation émancipatrice, chacun s'est un peu nourri de ce qui a été apporté dans tout ce courant assez large qui s'est réuni autour des congrès d'éducation nouvelle, avec un certain nombre de choses avec lesquelles on ne peut être d'accord, d'autres un peu moins d'accord. Mais donc voilà, il y a un apport très très riche à la fin du 19e siècle et au cours du 20e siècle.
Ben oui, mais je suis isolé là-bas, j'ai beau faire des signes, personne ne me voit, donc je ne peux pas prendre la parole, je ne peux rien dire.
Pour une fois qu'il ne me monopolise pas le
micro. Bien, j'aurais voulu qu'on donne une note à Natacha pour son petit exposé. Hein,
insatisfait, si, puisqu'on va aller à l'église catholique.
Ah, en fait, j'ai fait tout ça juste pour le bac. Hein.
du coup, je sais même plus ce que je voulais dire. Bon, j'ai plein de trucs.
Il est perdu.
On n'a même pas fait des annonces de la musique.
Hein, ouais, c'est vrai. Bah, fais-la, profite.
Bah de... oui, alors, j'ai quand même rappelé qu'on est sur Radio Libertaire, 89.4 MHz, dans le monde merveilleux du travail, et qu'on a comme invité Pascal et Natacha. Ça a été dit dans les, du lycée autogéré de Paris. Bah, allez, les auditeurs ont compris, hein, le coup de fil qu'on a reçu quand même. Ils ont compris. Mais bon, on ne l'avait pas fait quand même. Et donc, là, pour la désannonce de la musique, c'était Brigitte Fontaine. Alors, je vais quand même dire un petit truc. Alors, les auditeurs qui prendraient l'émission en cours et qui ne suivent pas tous les 15 jours notre émission Monde Mère et du Travail, sachez que le mois dernier, on avait déjà reçu Natacha et Pascal sur ces mêmes ondes. Donc, alors, pour l'auditrice qui a appelé, peut-être qu'il y aura un élément de réponse à son questionnement sur la précédente émission. Mais bref, je voulais juste dire, là, donc c'était Brigitte Fontaine qui interprétait Où vas-tu, petit garçon, et que c'est une sorte de. Comment on pourrait dire ça? Pas une mise en parallèle, mais avec la chanson que Natacha avait voulu qu'on passe de Graham Allwright, qui était. Je me souviens plus.
Qu'as-tu appris à l'école
Voilà. Et ben là, ça c'est voilà, c'est un petit peu le et la chanson de Graham Allwright, c'était une la traduction d'une chanson d'un chanteur folk qui s'appelle Tom Paxton. Voilà, juste pour l'info. J'aime bien faire mon malin.
Pas mal.
Non mais ouais, étaler son savoir, le diffuser, ouais, diffuser. C'est bien.
Oui. Et du coup, ça vous êtes obligé d'aller écouter la précédente émission. Si vous ne l'avez pas fait. Puis si vous l'avez fait, bah, vous y retournez quand même. Oui, voilà. Bon, excusez-moi. Donc j'ai un petit peu coupé, du coup. Beaucoup. J'ai beaucoup coupé. Ah,
c'était très intéressant, mais aussi très indélicat.
Alors, justement, l'auditrice qui a appelé s'interrogeait un petit peu sur la population qui peuple le LAP. Alors, il y avait d'autres choses, hein, mais je vais retenir que ça. Est-ce que c'est pas aussi un petit peu plus le milieu bourgeois? Parce que dans les milieux les plus défavorisés, les ZEP ou les trucs comme ça, bah, effectivement, personne connaît. Mais c'est vrai qu'il y a la difficulté de faire connaître ce lycée, ce type de lycée alternatif, qui de toute façon, on voudrait voir disparaître. Enfin, quand je dis on, c'est pas moi, c'est pas nous ici. Hein, c'est
oui, mais je pense qu'il. Alors simplement pour moi, je pense qu'il est la population. Alors, je dirais si je me trompe ou pas, mais on avait, me semble-t-il, un peu abordé le sujet en disant est-ce que les élèves qui viennent s'inscrire au LAP avec leurs parents, etc., éventuellement, sont issus de milieux libertaires, de milieux plutôt de gauche. On avait abordé un peu cette question, ouais. Me semble-t-il, lors de
pour
la dernière émission.
Ça, je renvoie l'auditrice à la précédente émission.
Voilà. Oui, je pense qu'il faut une certaine conscience politique et une certaine curiosité. Il faut d'abord être curieux parce qu'il faut aller à la recherche d'autres choses qu'un établissement classique. Donc, et puis parfois, ça c'est pas suffisant. Alors, il y a des concours circonstances qui font qu'on découvre le LAP et qu'on y vient. Alors, est-ce qu'ils viennent, par exemple, ils viennent lors des journées portes ouvertes? Oui, Fabrice.
Oui, vas-y, continue. Je prendrai la parole après.
Ils viennent lors de une espèce de journée portes ouvertes. Alors, on peut venir une fois pour découvrir, pour voir. Comparer ce qu'on a entendu, ce qu'on a lu éventuellement, et puis la réalité. Et puis ça se fait souvent. Moi, je pense que des inscriptions dans ce genre d'établissement très particulier se font. Il y a un courant qui passe. C'est-à-dire que on rencontre une personne qui va d'abord qui ne veut pas vous aboyer dessus, qui ne va pas vous dire vous les inscrire en quelle section pour faire quoi, latin, maths, philo, anglais, chinois, informatique et dessin. Je pense que ça fait toute la différence. Et là, la rencontre, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un lieu de rencontre. Donc, c'est voilà, tu es accueilli par un être humain qui va te parler peut-être différemment de ce que tu entends comme discours dans un lycée classique.
Mais si la question, c'est est-ce que le fait d'être amené à faire des recherches sur l'existence du LAP ou d'un, est quelque chose qui va organiser une présélection sociale, je répondrai en deux temps. Déjà, c'est intéressant de voir que ça, c'est une... Alors, je ne sais pas si c'est une critique, hein, mais non. C'est en tout cas une question qui vient très, très souvent et parfois émise sous la forme d'une critique qui a été jusqu'à son paroxysme dans un... Je ne sais plus quel... c'était un journal mutualiste qui était venu faire une interview au LAP dans la fin des années 90, début des années 2000. Et sans connaître absolument le LAP, l'auteur de cet article avait eu sa petite explication en disant c'est un lycée qui est très très bien pour les canards boiteux de la bourgeoisie. Voilà, alors que aucun élément.
Les bobos du LAP, les bobos du LAP, c'est...
Alors, donc c'est quand même un a priori qui est tenace et qui, voilà. Donc qui serait intéressant de questionner aussi qu'est-ce qu'il fait, parce que bien souvent c'est des gens qui connaissent absolument pas la population, qui en ont peut-être une image par quelques personnes qu'ils ont vues à la télé, par deux trois personnes, mais qui ont absolument pas une vision un peu plus large de quels sont les élèves qui viennent au LAP. Donc ça serait vraiment intéressant de creuser qu'est-ce qui fait que est-ce que c'est parce qu'on pense que être capable de se dire bah je peux quand même réussir socialement en allant dans quelque chose de différent, c'est quelque chose qui est inaccessible aux plus pauvres, ou aux personnes qui ont une culture moindre. Enfin, il y a pas mal de choses à questionner qui seraient intéressantes. Maintenant, pour répondre directement à la question, c'est un public assez varié, et qu'est-ce qui fait qu'on... Ça, c'est vrai qu'on l'avait déjà dit un peu la dernière fois. Qu'est-ce qui fait qu'on est amené à faire des recherches pour savoir s'il n'y a pas une alternative? On l'avait dit la dernière fois, maintenant, il y a beaucoup de gens qui arrivent par Internet.
Oui. Hein.
C'est souvent, quand même, l'échec de l'école traditionnelle qui fait que des personnes se disent, bah tiens, j'en ai marre de me prendre des coups dans la figure, j'en ai marre effectivement qu'on me parle comme un chien et qu'on me dise que je suis un bon à rien, et qui fait que je vais voir s'il n'y a pas d'autres écoles différentes. Voilà. Après, dans toutes ces personnes, pour différentes raisons d'échec, pour différentes raisons d'inconfort avec l'école, voire de souffrance, parce que c'est quand même un lieu générateur de beaucoup, beaucoup de souffrance, l'école, qu'est-ce qui regroupe sociologiquement ou socialement les personnes? Je pense qu'il n'y a pas d'uniformité. Moi, je n'ai pas la prétention de faire un certain nombre d'analyses qui n'ont jamais été faites pour le... Alors, il y a quand même, puisque les CSP, on regarde les CSP, et ce qui va un peu dans le sens de l'a priori qui était donné, c'est qu'il y a une sous-représentation des enfants d'ouvriers au LAP. Ça, c'est vrai, c'est un fait. Voilà, une sous-représentation des enfants d'agriculteurs, ça s'explique un peu plus.
Il y a un beau jardin, quand même.
Je vois qu'entre vous, vous savez ce que c'est qu'un CSP, mais tout le monde ne le sait peut-être pas. Antenne.
Catégorie socio-professionnelle. Voilà, et ça fait partie des indicateurs aussi observés par l'éducation nationale pour le fameux palmarès des lycées et les fameuses plus-values, puisque maintenant, ils ne donnent plus des résultats bruts au bac pour savoir quel est le premier lycée de France, mais quel est celui qui a la plus grande plus-value.
Fabrice. Mais je voulais dire aussi, peut-être pour reprendre un petit peu la question de l'auditrice, effectivement, il y a des zones d'éducation prioritaires, ça, les ZEP, il y a des ZUP aussi, je ne sais pas, enfin bref, les ZEP. Et les élèves qui constituent la population du LAP sont peut-être pas forcément... peut-être pas du tout, issus des quartiers les plus défavorisés. Mais, comme tu le disais, puisque maintenant, de plus en plus, on va aller faire des recherches sur Internet, il faut déjà être équipé de l'outil informatique, et je pense que tout le monde ne l'est pas, même si tout le monde a des smartphones, tout le monde n'est pas forcément bien équipé, et qu'il y a sans doute aussi les parents qui aident à faire la recherche. Évidemment, si la population des quartiers les plus défavorisés ne maîtrise pas le français, ne maîtrise pas non plus l'outil informatique, ça doit être quand même assez difficile pour faire des recherches. Et du coup, peut-être pour ça qu'on ne trouve pas les personnes les plus... les plus défavorisés, enfin les exclus, en fait, on va dire ça, enfin les plus exploités par le système. Je préfère ça parce que... Oui, t'es pas d'accord, Eric.
C'est pas que je suis pas d'accord, ni d'accord d'ailleurs, mais je pense que ces populations dont tu parles constituent finalement pas. Il y a des concentrations qui faussent un petit peu les données. Elles ne consacrent pas une majorité, mais c'est même qu'une minorité des populations dans les collèges et les lycées. Hein. Il y a des concentrations qui masquent un peu la réalité. Je pense qu'on a un gros bataillon de moyens, de personnes de jeunes qui sont ni défavorisés ni favorisés. Je pense qu'il faut, alors de mon point de vue, il faut arrêter de faire un petit peu de misérabilisme. Je sais que ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais il faut ramener un peu aux proportions. Certes, il y a des espaces sous-équipés, sous-informés, sous-scolarisés, alors sous toutes ces formes, hein, peu importe. Après, il y a des explications à apporter à cette situation, mais elles ne constituent pas, ces populations, une très forte minorité au sein de la population des enfants, collégiens, lycéens et étudiants. Elles croient, puisque de plus en plus ils ont accès plus facilement, en tout cas aux formations. Je pense qu'il y a vraiment faut se pencher sur les chiffres, et je suis pas loin de penser qu'ils sont encore que minoritaires, et que ce qu'on appelle les grandes classes moyennes, les 70% de la population française qui alimente les collèges, les lycées, les écoles. Et qui, elles, ont accès à l'information, ont des parents souvent qui suivent plus ou moins et qui s'y jouent un peu plus leur rôle de parents, peut-être aussi, hein, faut dire aussi ce qui est, passent plus de temps à éduquer, à écouter, à transmettre, à échanger. Il y aurait peut-être davantage de propositions d'inscription, et puis éventuellement pourquoi pas dupliquer des expériences comme voilà. Moi je pense que là les autres, celles dont tu parles, en fait, sont, je pense, sont très loin de l'école, et encore plus loin d'expériences pédagogiques éducatives comme le LAP, comme celle du LAP, malheureusement, hein, je veux dire,
ils sont pas inexistants au LAP, hein,
ils sont pas inexistants, mais c'est marginal. Mmh. Ça reste marginal. Malheureusement, ça reste marginal.
Moi, je trouve que, enfin, sur cette question, il y a quand même un aspect qui est peut-être important, enfin, de manière géographique. C'est il y avait déjà, enfin, tu disais pour les parents. Comment dire, qui vont aider aux recherches ou non, et qui vont aussi, le public étant aussi quand même de plus en plus jeune, bon, il dépassait la vingtaine, c'est ça, donner leur approbation ou non pour aller dans un lycée totalement expérimental comme ça. Et généralement, on parlait des ZEP aussi, où se trouvent les ZEP, généralement ça va être dans... ça va pas être au cœur de Paris. Le LAP est à Paris. Ça va être plutôt sur la moyenne couronne, la grande couronne, mais jamais très rarement pour quelques restes de quartiers populaires, directement sur Paris. Du coup, pour pouvoir simplement aller au LAP, avoir un pass Navigo, etc. S'il fallait un espèce d'investissement, quoi, alors...
Tu sais que les ZEP, c'est défini par le ministère. À un moment donné, on dit ça, c'est une ZEP, puis ça, ça l'est plus. Voilà. Donc on fait les chaises musicales. Mm. Et c'est en fonction d'opportunités politiques, de stratégies politiques. Il y a des endroits de perdition dans Paris, hein, je pense au 19e, 20e arrondissement, qui sont des 18e, et sont très peuplés, où des établissements offrent des formations qui sont parfois des formations des voies de garage en quelque sorte, mais il s'agit d'accueillir le maximum de jeunes, de populations très nombreuses et parfois de milieux plutôt ouvriers, employés, qu'on n'a pas forcément inséré dans un système de gratifiant, valorisant, et donc bah, on les met en voilà, en CAP cuisine, en CAP plomberie, en CAP petite enfance, en CAP et pourtant ce sont pas des ZEP, donc je crois que la ZEP c'est pas le c'est, ça doit pas masquer non plus l'arbre ZEP ne doit pas masquer la forêt de tous ces même ces arrondissements dans Paris où il y a une très grande misère éducative, il y a une très grande misère associée à une misère sociale, et puis une misère culturelle.
Il y en a à Paris, hein, des zones, alors, je crois qu'on dit REP maintenant plutôt.
Oui,
REP,
oui, oui, oui.
Il y en a quelques-unes à Paris, c'est ça, effectivement, ouais. Les arrondissements que tu décris.
Donc non, et là, et puis alors le transport, c'est pas... Après, il y a des... Moi, je pense qu'il y a des... c'est une... C'est, ça coûte pas grand chose pour l'élève, le pass Navigo. Hein. Ils ont essayé, c'est imagine, je sais pas quoi.
Dans les 300 balles.
Imaginaire.
Imaginaire. Mais il y a des aides, alors c'est pareil, il y a des aides qui permettent d'avoir un coût quasi nul pour la famille. C'est pas ça. Non, je pense que moi je suis persuadé.
C'est le temps de transport qui joue.
C'est le temps de transport. C'est le fait aussi d'adhérer à. D'abord, de sortir de son confort, de sa zone de confort, même si c'est une zone d'inconfort, attention, hein, se vivre dans une cité, que ce soit en très grande banlieue, en proche banlieue ou à Paris, ou vivre en vase clos, où finalement on a un environnement très connu et on n'en sort pas tellement. Hein, tout se passe sur dans le quartier ou dans 3-4 quartiers, voire à l'arrondissement. Bah sortir de sa zone culturelle de confort, où on a tous ses copains, ses copines, etc., pour aller découvrir le LAP. D'abord, c'est un choc culturel. Hein. C'est un choc culturel pour ceux qui arrivent d'établissements standards. Je veux dire, imaginons pour ceux qui arrivent d'établissements où il y a d'énormes difficultés d'apprentissage et donc d'ouverture.
Il y avait 3 ans maintenant, que la première année de l'ouverture, un projet de collège différent, avec un fonctionnement coopératif et un fonctionnement pédagogique bien différent et un peu plus proche de celui du LAP, même s'il n'était pas question d'autogestion, qui avait pour vocation de s'implanter à Aubervilliers, qui s'est même implanté la première année à Aubervilliers, c'est le collège Gisèle Halimi. Ça a fonctionné pendant une année dans le quartier dans lequel il était implanté. Voilà. Et ce qui a malheureusement mis fin à cette expérience, c'est pas du tout les difficultés rencontrées avec les élèves qui y venaient ou les enseignants qui y étaient. C'est tout simplement que, encore une fois, les autorités et la hiérarchie de l'académie du jour au lendemain, et c'est pendant le confinement de 2020, décidé d'interrompre l'expérience, puisque il y a des textes qui disent que depuis 80, ce qu'on disait tout à l'heure, à part les 4 qui ont un statut particulier, tous les autres sont soumis à un compréhension de convention et de reconduction sous forme d'évaluation, et donc un peu quand ça les chante ou quand ils trouvent que les enseignants sont pas assez soumis aux directives ministérielles pour organiser les évaluations nationales et tout ça, on arrête l'expérience. Et c'est ce qui malheureusement s'est passé pour l'équipe et les élèves du collège Gisèle Halimi à Aubervilliers.
Ce que tu disais tout à l'heure, je pars rebondi dessus, parce qu'on a continué dans le propos, mais tu utilises un terme de économique ou financier.
Le HRE, quand je parlais du HRE.
Oui, et c'est exactement ça. C'est qu'on est sur un modèle aujourd'hui de rentabilité, de profitabilité. Donc, une expérience bonne ou pas bonne, hein, parce qu'on finalement, y a toujours à tirer des choses. Et puis, c'est pas au bout d'une année qu'on arrête une expérience. C'est pas suffisant. C'est On en tire on a fait un bilan et puis on essaie de voir ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, pourquoi ça a pas bien marché, pourquoi ça a bien marché. Et puis clac, on réajuste comme ça avec l'ensemble de la communauté, des profs, des élèves, tout le personnel aussi est nécessaire à l'entretien s'il y en a de l'établissement. Hein, une année, c'est d'abord c'est ridicule. Alors c'est du coup ça c'est de la ça c'est une décision
c'est
politique.
C'est des sanctions tout simplement. Oui, voilà, enfin, toutes les expériences de ces dernières années, on peut aussi citer le cas de l'école Laborie dans le primaire à Paris. Quand d'une manière ou d'une autre, parce que on va pas tout raconter, mais l'académie décide la fermeture de l'expérience, c'est absolument pas sur une analyse profonde des ratés ou des échecs ou des améliorations patients possibles de l'expérience. C'est tout simplement la volonté de sanctionner collectivement une équipe parce qu'elle n'a pas été suffisamment au doigt et à l'œil de toutes les directives qu'on leur demandait de faire passer, quoi. On en a de multiples exemples qui malheureusement illustrent toutes ces sanctions collectives, quoi.
J'ai du mal à croire que les dominants, le gouvernement, tout ça, ne veulent pas le bien.
Ils ne sont pas bienveillants.
Ils ne sont pas bienveillants, ils ne veulent pas le bien des élèves.
Hein? Ouais, on a
du mal à croire.
J'ai du mal. Oui.
Oui.
Peut-être que on va dire un petit mot aussi quand même de ce que vous réservez, puisque vous fêtez les 40 ans, voilà, du LAP. Qu'est-ce que vous allez nous réserver? Qu'est-ce qu'ils vont nous réserver, les petits lapiens en cheveux verts? Non, je sais pas. Non. Oui, on peut continuer. Non. Mais
on peut parler des 40 ans.
Parce qu'il est 48, donc effectivement, on arrête à 21h.
C'est 40 ou 48? Tu sais plus ce que tu...
48. Il est 20h48, 47.
Donc il y a effectivement, pour les 40 ans, donc depuis 1982, quelques mois après le lycée de Saint-Nazaire qui lui a ouvert en février, donc on organise une grosse fête qui se tiendra du vendredi 24 juin au dimanche 26 juin compris. Donc ça commence le vendredi soir avec une inauguration de la fête des 40 ans, un certain nombre de discussions qui auront lieu dès le vendredi soir, et puis de la musique et des productions, des activités de cette année, voilà, qui vont produire soit des spectacles, soit des expositions, soit un certain nombre de choses. Ça, c'est pour le vendredi. Le samedi 25 juin, il y aura beaucoup plus de place à la réflexion autour de l'éducation, autour de l'histoire du LAP et d'un certain nombre d'autres possibilités. Donc ça commence dès le samedi matin avec un certain nombre d'ateliers, de réflexions et de discussions, donc dès le samedi à 10h. Ensuite, il y aura bien évidemment des repas préparés en autogestion et mangés en convivialité, on l'espère. Et puis l'après-midi, il y aura des ateliers pratiques, des restitutions des ateliers du matin. Voilà. Et puis l'idée, c'est que le samedi soir, ça soit une grosse, grosse fête avec beaucoup de musique et beaucoup de musique d'anciens du LAP. Il y a aussi pas directement des membres du LAP, mais ils ont envie de soutenir. C'est des connexions. C'est les camarades de la fanfare invisible qui viendront faire une petite prestation le samedi soir.
Que vous ne la verrez pas d'ailleurs.
Non, vous ne la verrez pas. Si vous l'entendez, c'est déjà pas mal. Comme, ouais. C'est déjà pas mal. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre d'auditeurs et d'auditrices les ont déjà croisés dans les mouvements sociaux, dans les manifestations. Et donc voilà, ça va durer jusque tard dans la nuit. Et puis dimanche, à nouveau, place à de la convivialité autour d'un repas et un certain nombre de discussions autour de projections. Voilà, jusque dimanche dans l'après-midi. Donc voilà, ça donne la possibilité de passer sur un ou plusieurs de ces trois journées, de venir rencontrer les lieux pour ceux qui ne connaissent pas encore, de venir discuter, de venir passer un moment sympa.
Parce que c'est pas la fête de l'école, hein, chers auditeurs, c'est vraiment c'est ouvert à tout le monde. Alors, c'est de quelle heure à quelle heure?
Le vendredi soir à partir de 18h, le samedi de 10h du matin jusqu'à tard dans la nuit, et le dimanche. Il ne faut pas trop se pointer le matin parce qu'on peut imaginer que... Mais à partir de 13h, il y aura du monde dans l'après-midi. Voilà.
Le programme sera disponible
Alors, il y a déjà un pré-programme qui va être envoyé... Oui, qui va être envoyé par tous ceux qui se sont inscrits à la lettre d'information. D'ailleurs, s'il y a des auditeurs et des auditrices qui veulent la recevoir, il suffit d'aller sur le site du lycée autogéré de Paris. Donc, en tapant dans un moteur de recherche lycée autogéré de Paris ou l'app, ça peut fonctionner. Ou sinon, c'est l-a-p.org pour ceux qui ont la mémoire des adresses. Et là, vous avez la possibilité de vous inscrire à la lettre et vous retrouverez toutes les informations, évidemment, sur les 40 ans. Et vous pourrez vous inscrire à cette lettre.
Bah, rendez-vous est pris.
Un rendez-vous est pris.
Oui. Bon, bah, du coup, ça a été trop vite.
Ça a été trop vite.
Je pensais qu'il allait dire plein de choses. je peux toujours lancer la souscription si, pour Radio Libertaire.
Oui.
Et puis, ouais, enfin, c'est la nôtre. Vous aimez la radio ? Marre de la pub ?
Vous êtes libertaire ?
Marre des radios étatistes ?
Marre des capitalistes qui orientent l'information ?
Alors soutenez Radio Libertaire.
Téléchargez le bon de souscription sur radiolibertaire.net. Retournez-le à Radio Libertaire, 145 rue Amelot, Paris 11e, accompagné d'un chèque ou d'un virement à l'ordre de DMC. Radio Libertaire, 89.4 MHz.
La radio autogérée de la Fédération anarchiste.
La voix sans Dieu, sans maître
et sans publicité. Je ne sais plus ce qu'il faut dire, puis dis tout le truc.
On reprend le truc.
Ouais, attends. Alors... Alors, il va falloir que Sylvie arrête de parler au téléphone à Natacha, parce que Natacha doit reprendre l'antenne. Chers auditeurs, on vous informe quand même que si vous avez fait des virements, si vous faites des virements Radio Libertaire ou des souscriptions... sous forme de... Je n'ai plus le papier sous les yeux. Enfin bref. Et que votre compte n'est plus alimenté, eh bien, arrêtez vos souscriptions. Ça évite de gréver la trésorerie de Radio Libertaire. Voilà. Mais n'hésitez pas.
Natacha,
on va rendre la parole à Natacha.
Oui, je voulais juste faire un petit retour sur l'appel de Sylvie, justement, qui nous disait que, justement, par rapport à la composition sociale au LAP, justement, elle faisait un rapport de. Enfin, comment dire, nous rapporter son expérience par rapport à ces deux fils qui ont été au LAP aussi. Et assez étonné de voir que justement la composition sociale était très loin d'être des milieux populaires, quoi. Et donc était assez étonné, quoi, par ça, quoi. Je voulais, puisqu'on a encore un peu de temps, parler...
Aime ça causer, hein.
Pardon.
Elle aime ça causer. Bah, tu vois, si tu avais un casque, tu l'aurais entendu.
parler un petit peu des expériences libertaires, justement, pendant la révolution espagnole de 1936, que je trouve toujours une période vraiment assez intéressante. Alors, j'avais quelques notes là-dessus. Parce que là, ce sont vraiment les premières expériences d'école à avoir été mises totalement en autogestion et donc en se passant d'État, puisque les premiers mois de la Révolution avaient quasiment foutu le camp, quoi. La création du Conseil de l'École Nouvelle Unifiée, le CENU, donc c'était le nom que prenait ce conseil chargé justement d'organiser le système, enfin, nouveau système scolaire, si on peut appeler ça comme ça, durant la Révolution. Il faut penser que, alors à l'époque, très peu de personnes étaient scolarisées, 60%, enfin, si je me prends chiffre, 60% étaient analphabètes ou n'allaient pas à l'école dans la population. Donc partant de ce constat, en lien avec la création du syndicat de bâtiments, etc., ils vont se mettre à construire, bah justement partout dans la zone libre, surtout en Catalogne, de nouvelles écoles, et vont réussir à la prouesse de réussir à scolariser un nombre assez considérable d'enfants. Pour éviter aussi les bombardements sur les grandes villes, aussi avec le rapport de syndicats de transport en commun, de tramway, etc., faire en sorte de décentraliser ces écoles pour avoir à éviter cette crainte permanente aux enfants, quoi, et qui n'était pas qu'une crainte. Du coup, mais concrètement, donc pendant ce temps d'expérimentation aussi, d'expérimentation d'une école justement en autogestion, puisque la théorie était nettement développée que les élèves devaient prendre en charge la gestion de leur école. Là, pour le coup, ils vont concrètement s'inspirer de tout ce passé d'essais d'écoles révolutionnaires et anarchistes qui s'étaient produits dans les années 10, les années 20. Comme par exemple, ils vont organiser faire une importance pas possible mettre une grande importance à la présence de cours d'art plastique, aux élevages d'animaux et aux ateliers. Faut dire que ces écoles s'ancrent pas mal ayant pour référence les Athénées, qui s'était beaucoup développé dans les années 20, notamment grâce à la FAI, la Fédération anarchiste ibérique, dans lesquelles justement beaucoup de, enfin, qui s'ancraient dans les quartiers ouvriers pour faire de l'éducation populaire, pour au lieu d'aller à la messe les dimanches organiser des sorties groupées justement qui pour le coup réunissaient un plus large public, dont de jeunes enfants, des femmes, des hommes pour aller faire des sorties, des marches pour débattre en même temps, pour improviser des conférences, etc. Et d'un autre événement qui est quand même la mort de Francisco Ferrer, une des causes de la création de la CNT, justement de cette expérience qui avait été faite par ce pédagogue, de faire une école où la place de l'éducation en extérieur était aussi très grande, et la place des élèves dans la gestion et dans la prise de décision, celle aussi dans la place qu'ils avaient dans le choix des pédagogies et de l'éducation était assez grande, quoi. 21 heures pile. Dis donc.
21h, normalement, c'est l'heure à laquelle on rend l'antenne. Ça va, il n'y a pas d'émission après. Yes. Ça y est, t'es fini.
Oui.
Ah, dis donc. Tu as fait court ce soir.
J'ai fini pour 21h.
Voilà.
Parfait.
Bon. D'autres choses à dire, mais on fera pas d'annonce de voilà, il n'y avait pas de toute façon, non, très peu.
L'annonce principale, c'est la fête des 40 ans du lycée autogéré de Paris, voilà, dont on va redonner les dates.
24, 25 et 26 juin au lycée autogéré de Paris, donc je rappelle pour les auditeurs et les auditrices, 393 rue de Vaugirard, dans le 15e, et c'est entre Convention et Porte de Versailles.
Ça c'est l'annonce essentielle du jour.
Voilà. Et nous, la semaine prochaine, on va vous retrouver la semaine prochaine, donc le Monde Merveilleux du Travail, pour une émission sur, avec un travailleur social, en tout cas, sur les travailleurs sociaux confrontés au monde marchand. Bon, c'est comme toujours, hein, ça, nos émissions, elles partent dans le... On donne un thème, puis en fin de compte, ça part dans tous les sens, mais bon...
Ben oui, mais...
Mais c'est comme ça nous plaît. Bon.
C'est une certaine liberté.
Avant de dire au revoir, vous voulez faire une conclusion, vous voulez...
Allez, conclusion.
Repartons pour 40 ans et ouvrons 40 lycées autogérés partout où il y en a besoin.
Bah, il va falloir faire la révolution, alors. Ça,
c'est eh bien, allez, soyons, faisons
c'est
la révolution.
C'est de l'optimisme.
Natacha, non, rien. Embrasse tes parents, tout ça, ils sont pas venus, ces feignants-là, ce soir. J'espère qu'ils nous écoutent.
Je sais pas si tu sors du studio ce soir.
Je vais pas les recroiser dans les manifs. Hein. Bon, on remercie tout le monde alors. Non, je sais pas, tu voulais faire une conclusion ou pas? Oui. Ben oui, elle m'entend pas là, pas de casque, forcément. Oui.